Ce jour-là, j'ai eu un immense choc, en fait. J'en ai eu un si grand que je n'en ai jamais parlé.
En fait, adolescente, je me sentais déplacée, comme un geste ou comme une parole peuvent être déplacées.
En famille, en amour, au travail, en société, trouve-t-on jamais tout à fait sa place ? Ce sentiment d'être en adéquation avec soi-même, de se rapprocher de la personne que l'on a l'ambition d'être. Une carrière pertinente qui nous rend heureux, un entourage qui nous aime pour ce que nous sommes, une vie qui nous ressemble ou tout du moins nous trahisse le moins possible. Parfois, ce sentiment de cohérence arrive vite, parfois plus tard, quelquefois jamais. Le plus souvent, il se déplace par vagues. Je suis Marion Ruggieri et dans le podcast Les Vagues, un tout nouveau podcast de Elle, j'interrogerai des personnalités sur le moment où elles se sont senties à leur place pour la première fois, mais aussi le moment où elles se sont senties déplacées. Je me rendrai chez elles ou dans un lieu cher à leurs yeux pour qu'elles me racontent ce jour fondateur où elles se sont dit « Là, je suis bien, je suis là où j'ai toujours voulu être et c'est moi ». Découvrez et écoutez Les Vagues à partir du 24 octobre sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Elle débriefe.
Elle débriefe.
Élodie Petit
et Elisa Casson de Elle
décryptent l'actualité la plus futile
avec tout le sérieux qu'elle mérite.
Bonjour à tous et bienvenue dans Elle débriefe, le podcast qui traite l'actualité la plus futile avec tout le sérieux qu'elle mérite. Je suis Élodie Petit, rédactrice en chef adjointe de Elle.fr, et la télé-réalité a débarqué en France et donc dans ma vie quand j'avais 15 ans, soit une ado dans la force de l'âge. Donc évidemment, je me suis enfilée des heures devant Laure Delattre qui chante le générique de Maya l'abeille, devant Gianne des colocataires qui disait « chaleur », ouais, rêve pointu, devant Mia Fry qui veut les steps, et bien sûr, devant la Starac, notre sujet du jour. Alors je mets tout de suite fin au débat, parce que je sais qu'il va avoir lieu. Le meilleur candidat de tous les temps, c'est Georges Alain. Voilà, on peut passer à autre chose. Mais la plus grande fan de la Starac, c'est celle qui m'accompagne chaque semaine, c'est Elisa Casson, journaliste forme et beauté. Salut !
Salut, c'est un peu l'épisode de ma vie, là, je pense.
Il y a quelques semaines, après de nombreuses rumeurs, le Parisien a révélé que la Starac préparait son grand retour. Alors, ça n'a pas encore été confirmé, mais bon, on se dit que si le Parisien l'annonce, c'est que c'est vrai.
Moi, j'y crois.
J'ose y croire. C'est une nouvelle qui, j'avoue, en fait, me touche pas du tout. Autant j'adorais ça à ses débuts, les premières saisons, c'était encore tout frais, il y avait des énormes stars. Mais là, voir Kenji Girac partager un duo avec un candidat qui chante faux, bof. Surtout que c'est pas la première fois qu'on a un retour de la Starac. Rappelez-vous, il y a quelques années, avec Tonya Kissinger, alias Jessica de Sous le Soleil, il y avait un comeback. Bon, bah personne s'en rappelle. À part toi, Elisa,
ouais,
je pense que t'as regardé.
Moi, j'y étais. Ouais.
Mais voilà, ça. Qui est-ce qui a gagné cette saison-là ?
Lorraine.
Waouh. Ok. Bref, je suis quand même preneuse de l'info. J'ai très envie de décortiquer tout ça. Et pour ce faire, on a invité une ancienne académicienne, Karima Charny, qui était dans la saison 4 et qui va tout nous raconter. Coucou Karima.
Bonjour, bonjour à tous. On va tout vous dire, on va tout décrire et je ne sais pas comment ça va se finir.
Elle débrief.
Alors les filles, Elisa, Karima, on va faire tout de suite un tour de table. Est-ce que vous êtes contents de ce potentiel retour de la Starac, Karima?
Oui, si c'est dans les mêmes conditions qu'à l'époque.
Ah, c'est-à-dire ?
Moi, je veux pas qu'on touche au côté nostalgie. Je veux pas qu'on fasse une version 2022. Je veux que ce soit les mêmes codes. Ouais, j'en demande beaucoup.
Au château, bonjour. Au château ?
J'adorerais que ce soit le château. Ouais. J'adorerais qu'il y ait les quotidiennes, comme Nikos.
Parce qu'il n'y avait, avait pas de quotidienne la fois d'avant ?
Si, si, il y avait.
Si, mais j'ai peur en fait, qu'ils nous fassent une version 2022 où on nous les zappe. Oh. En fait. Donc ça, j'aimerais bien tout ça. Ouais. C'était des bons moments. Les plus grosses doses de bêtisier de Nikos, c'était surtout pendant les quotidiennes.
Moi, je suis tout à fait d'accord. Déjà, je suis surexcitée. et je veux que ça soit comme à l'ancienne. Je veux pas un The Voice. Ouais. Je veux vraiment un Starac.
Ok. Ouais. Bah, si vous nous entendez, TF1 en démol, ce sera sur TF1 ou pas?
Oui,
normalement. Oui.
Et ce sera avec Nikos.
J'espère.
C'est ce qui est
dit. Il y a quelqu'un d'autre.
Franchement, si c'est pas Nikos, moi, je ferme la télé. Ah ouais, j'éteins direct.
Tour de table, qui est-ce que vous aimeriez voir comme prof? Est-ce qu'on remet Alexia Laroche-Joubert en directrice du château?
En prof de danse. Alexia en prof de danse, vous vous souvenez pas ou...
Bah, elle a quelques mouvements. Elle a quelques mouvements, en tout cas.
On l'aime. je sais pas. Parce qu'il y en a, ils ont...
Kamel Wally, il faut qu'ils reviennent.
Moi, c'est difficile de m'éloigner de l'ancien casting. Quoi. C'est trop difficile de me dire qu'il n'y aurait pas Kamel Wally. J'aimerais
Raphaël
tellement...
Ricci pour moi.
Oui, mais alors elle dira non. Oh, elle a été traumatisée.
Non, elle n'était pas ma saison.
C'était
qui,
toi?
Moi, j'avais Maïloli.
Ah oui,
qui est, alors, j'ai fait quelques recherches de temps en temps. Et je crois qu'il est maintenant coloriste.
Coloriste,
mais
ouais.
Mais non.
Mais
ouais,
si
ouais.
Ah ouais,
ouais.
Ah, donc,
il est parti dans la bataille.
Ok.
Ouais.
Bah, faut qu'on aille se faire colorer les cheveux chez lui, on est obligé. J'ai donné mon avis dans l'intro, mais vous, c'était qui vos candidats préférés? Allez, Elisa, je te laisse parler en première parce que je sais que
bon,
t'attends
ce moment.
Bon, moi,
c'est assez évident, c'était évidemment Jennifer. Mais après, en garçon, j'aimais beaucoup Patchy.
Ah ouais?
Je le trouvais drôle, j'aimais bien ses chansons, j'aime bien aussi son petit côté artistique et qui était différent des autres. Je l'aimais beaucoup.
C'est lui qui a offert le plus bel album
de
Louane, hein,
évidemment.
Ouais.
Bah, moi déjà, on va enlever ma saison, parce que sinon, direct, je dis Grégory Lemarchal, forcément. Ouais. Donc on enlève ma saison. Jennifer, qui était notre marraine, nous, en plus, sur la saison 4. Donc, rapport très particulier avec elle. Elle a vraiment été proche de nous, elle n'a pas fait semblant.
Ça impliquait quoi? Ouais, voilà.
Elle... Bah, elle était là, elle
genre
nous parlait.
Nounou?
Pas nounou, elle nous parlait beaucoup. Et puis moi, je fais partie de celle qu'elle a beaucoup revue à l'extérieur après, parce que j'ai fait beaucoup en interview après. Donc non, elle était assez présente. Et Patchy aussi, je l'aime beaucoup. Et Sofia Issaidi, pour moi hors catégorie.
Oui, oui.
Hors catégorie, elle aurait dû être...
Gagnante.
Gagnante le premier soir, un peu comme Greg.
Ouais.
Voilà.
Et votre moment culte de la Starac?
Alors, moi, mon moment culte...
J'en ris, c'est revenu direct, je ris.
Moi, mon moment culte, c'est dans la saison 3 avec Pierre.
Pardon, elle a pris mon cerveau.
C'est le moment.
Je pense que c'est le moment.
Bon,
j'attends pas qu'on
hier.
Me donne ma liberté, je la prends.
Voilà, c'est la phrase qui aurait dû être dans tous les bouquins de philo. Enfin, vraiment.
Alors, pour ceux qui n'ont pas la ref, il a chanté Bohemian Rhapsody, c'est ça?
C'est ça, de
voilà, pas très juste en plus.
Il était nommé. Et avant même la fin de l'émission, il était quand même dans une tenue genre Louis XIV.
Oui, alors parce que ouais.
C'est ça qui est génial et qui enlève toute crédibilité au geste.
Mais parce que Kamel Wally avait imaginé toute une mise
une
en scène.
Scéno,
c'était Louis XVI qui partait à l'échafaud. Enfin, vraiment, il y avait toute une mise en scène. Et puis, à la fin de sa prestation, il prend le micro, il explique que la vie de château ne lui plaît pas, que c'est difficile.
Au bout de 6 mois, ça fait 6 mois qu'il est dedans et le sort où il est nominé, il veut pas
ouais,
ça, il
non,
décide de
c'est
partir.
Plus possible. Et tu vois qu'il y a un espèce de petit moment de gêne qui s'installe. Nikos qui dit oui, bon allez. Et il lui reprend le micro et il dit non, mais ce soir, je ne reviendrai pas au château.
Ouais. Ce qui est génial, c'est Nikos derrière. Coup de théâtre,
oui,
le Star Academy.
C'est trop ça.
Allez,
théâtre,
on l'écoute.
Je ne retournerai pas au château, merci tout le monde. Attends. J'ai pas très bien compris ce que vous avez dit. Pierre. J'ai pas compris ce que vous avez dit à la fin. C'était quoi à la fin que vous avez dit? Bon, parce que on repart pas comme ça d'une aventure. C'est jusqu'au bout qu'il faut se battre. Et il y a des milliers de gens qui vous soutiennent depuis le début. Allez, venez par là.
Merci Nikos, merci, c'est très gentil. Mais. Mais Nikos, j'attends pas qu'on me rende ma liberté, je la prends. Merci beaucoup.
Oui, voilà, il est parti comme un prince dans son petit outfit inspiration siècle des Lumières.
Je crois que c'était la première fois qu'on quittait une émission comme ça en direct.
Ah oui, sur un plateau comme ça, oui.
Parce que je me souviens, après, il faisait des directs dans sa loge en mode Pierre va-t-il rester? Pierre va-t-il repartir? Et non, il est parti quoi.
Parti.
Et toi, ton moment culte, c'est ça?
Bah, c'est celui-là, il est magnifique et surtout. L'attitude de Nikos, non, restez ici, revenez, vous ne pouvez pas partir comme ça. Et tu te doutes, quand tu connais l'animation, qu'ils sont en train de lui hurler dans l'oreillette.
Ouais.
C'est sûr, et le type, il doit gérer un gamin qui veut se barrer en direct. Il doit gérer une émission, parce que les votes sont toujours en cours.
Bah oui,
et
c'est
rappelons
ça.
Qu'on nous payions pour les votes.
Bah oui.
C'était un texto, tu payais, c'était 50 centimes d'euros,
ouais,
je crois, un
ça.
Truc comme ça. Donc, mine de rien, les gens sont en train de payer pour des candidats, et l'autre est en train de se barrer, il est en train de
casser
toute
la
technique de l'émission. Toi, tu j'ai jamais parlé de ça avec Nikos.
Tu le connais?
Je l'ai connu à l'époque. Je l'ai ouais. pas revu, mais comme il a fait la saison 3 et nous la 4, on s'est beaucoup vu sur les concerts, etc. Parce qu'il avait un groupe.
Ah, donc il est pas parti fâché, il est quand même revenu un peu.
Ah, ouais, ouais, ouais. Et puis, on l'a croisé l'année dernière, si mes souvenirs sont bons. Il y a eu un documentaire pour les 10 ans de la Starac et on l'a croisé dans les coulisses. Donc, non, non, il a gardé quand même un rapport. Tu te fâches pas comme ça avec les équipes. Là, c'est vraiment que je pense
c'est ce
qu'on
va voir
envie.
Dans la suite de l'épisode.
Moi, j'ai un peu regardé son Instagram.
Ouais.
Et il a toujours ce petit côté rebelle parce qu'il a fait un live il y a pas très longtemps. Et les gens lui posaient la question, est-ce que tu vas venir à l'émission Réunion pour les 20 ans de la Starac? Et il dit, bah, ils m'ont invité, mais je viendrai que si je chante mes propres chansons. Donc vraiment, il a gardé son petit
ah oui, enfin, tous ceux qui ont dit ça n'ont pas été invités.
Bah hein. Oui, visiblement, ils n'étaient pas invités.
Et très sincèrement, même les gagnantes, Jennifer, Nolwenn, Elodie, sont venues sur le plateau et elles ont chanté des reprises.
Ouais. Leur moment culte.
Leur moment culte.
Jennifer a chanté la chanson.
Ah là, la manière dont je parle, on dirait vraiment que je protège tout le monde. Non, je vais bitcher à un moment donné, okay. Vous en faites pas.
S'il te plaît. Karima, toi, t'es entrée en quelle année?
2004.
2004.
3 septembre.
T'avais 19 ans?
Ouais.
Alors, dis-nous tout. Comment on est venu te trouver? Moi, j'ai une version. Peut-être que c'est une version déformée, mais si... Est-ce que c'est vrai que t'as été repérée pendant un karaoké?
Absolument.
Oh,
c'est archi vrai. Le 17 mai 2004. Et pourquoi je te précise la date? Parce que c'était l'anniversaire de ma grande sœur.
Okay.
Elle voulait pas fêter son anniversaire. Alors avec mon autre grande sœur, oui, nous sommes trois, on l'a embarqué de force à un karaoké en bas de la maison. On s'est dit au moins on se détend, on se boit un verre et on rigole un petit peu. On se moque des gens qui savent pas chanter. On fait tout ça. Et donc on va dans ce karaoké et j'ai une dame qui vient me voir et qui me dit est-ce que ça te dit de faire la Starac? Donc nous on explose de rire, bien entendu. Qui était dans un karaoké, à quel moment on te demande de faire cette émission? Non, c'était à Paris.
Okay.
Et en plus, on en est sur le casting de la saison 4. On sort du succès énorme de la saison 3. Et en plus, ils sont encore en tournée, les gars, pendant que nous, on est en casting. Et puis, elle me donne un numéro de téléphone avec mes sœurs. On se dit, on appellera demain matin. Et de toute façon, c'est une boîte de prod. Ils sont obligés de décrocher en faisant en démol bonjour, tu vois. Et là, t'as en démol bonjour. On raccroche.
Mais non.
Ouais, bah si, on raccroche. Parce que là, on se dit que c'est vrai. Donc on commence à paniquer avec mes sœurs. On rappelle. Et je me suis retrouvée dans les locaux d'Endemol. Donc oh oui, c'est vrai, c'est vraiment lors d'un karaoké.
Et alors, qu'est-ce qui fait... Tu faisais quoi dans la vie à ce moment-là?
J'étais étudiante en BTS audiovisuel.
Ah, ok. Et qu'est-ce qui fait que tu te dis, ok, je le fais?
Pas déjà, j'ai 19 ans. Enfin, j'ai 18 ans à ce moment-là, précisément. C'est 4 mois dans ma vie, c'est plutôt chouette. J'ai vu tout ce qui était arrivé sur les saisons 1, 2 et 3. Je me dis que j'ai rien à perdre parce que j'ai 18 ans. Et en plus de ça, je voulais travailler dans la musique, mais je ne savais pas quel poste je voulais avoir. Moi, j'ai jamais voulu être chanteuse, en revanche.
Ouais.
Ça, c'est... Voilà. Et par saison, t'as des gens qui veulent pas chanter, mais qui se retrouvent là. Et en fait, je me suis dit... Être candidate pour la plus grosse émission du moment, du divertissement, sur la plus grosse chaîne d'Europe, qui est l'idiot qui va dire non? Vas-y, c'est 4 mois de ta vie, ça changera rien à ta vie. Erreur. Une fois que tu le vis, tu sais que tu t'es transformée.
T'as,
mais
t'as pas
le coup,
anticipé le côté, je vais être filmée tout le temps?
Oh, pas du tout.
Ah ouais?
Je sais pas pourquoi, je suis pas naïve dans la vie.
Ouais.
Mais alors là, j'étais vraiment en mode, je les suis, je leur fais confiance. Oh, tiens, c'est sympa. Et d'ailleurs, je me rappelle d'un truc qui s'était passé lors de mon casting, mais je m'en suis aperçue après. Pas pendant. En fait, je fais partie des castiers sauvages, ceux qui n'ont pas envoyé leur vidéo. Donc, je me suis retrouvée au siège d'Endemol à faire ma vidéo, comme tous les gens. Parce qu'il fallait que le jury final voit quand même des images de moi. Et en fait, à un moment, la dame est partie, elle a laissé la caméra tourner, j'ai pas capté, en fait. Donc, moi, j'ai fait ma vie. Je regardais les images, je disais, oh, beau gosse, oh, c'est bien, oh là, j'aime bien elle. Et vraiment, je parlais toute seule dans la pièce. Mais en fait, j'étais toujours filmée.
Ah ouais.
Donc, ils ont dû se dire, tiens, elle est folle, elle parle toute seule, on va la garder.
Ils font le coup à tout le monde et ils regardent comment on réagit.
Les autres m'ont dit que les autres castés sauvages m'ont dit que ça avait été ça aussi pour eux. Donc en fait, je me suis dit, j'étais filmée.
Ouais,
okay. Mais c'est cool, j'avais pas eu de dossier, je me suis pas mise, tu vois, à faire des trucs un petit
tu
peu.
Tu t'es pas mise à poil, là.
Non, non, ni là-bas d'ailleurs. J'ai bien galéré sous la douche. On en parlera plus tard.
Et donc, dans ta saison, la chanson, c'était ça. Et oui, laissez-moi danser. Alors, avec Elisa, on va tous les mois à une soirée qui s'appelle Les Folivores à Paris.
C'est vraiment notre moment.
C'est notre moment. On maîtrise la choré. Est-ce que tu la maîtrises encore, toi?
Bah oui, on l'a faite il y a pas longtemps.
Oui, c'est vrai. Ouais. Cette choré, elle est culte, la musique. Enfin, franchement,
c'est une des meilleures.
Je pense que c'est la meilleure. Avec Paris Latino.
Ah, Paris Latino, c'était génial aussi. Ah non, j'ai un gros dos sur ça. C'est nous qui apprenons la choré à Kamel.
Mais non.
Il s'en souvient pas.
Non.
Oh ouais, donc nous, on est obligé de lui remontrer les steps à chaque fois. On lui dit, non, mais tu nous as traumatisés avec ça. Ça a duré après pendant je sais pas combien de mois de tournée. Et donc, c'est nous, on te remonte les pas à chaque fois.
C'est bizarre.
Incroyable. Y avait qui d'autre dans ta saison?
Ah, je peux te faire les 17, hein, normalement.
Oh, wow.
Je peux être assez douée pour me souvenir de tout le monde. Quand même, ça, c'est hyper méchant. Je vous embrasse, les gars. On a quand même un groupe WhatsApp. J'ai qu'à l'ouvrir, tu sais, pour voir qui est dedans. Lenny. Gauthier, Sébastien, Harlem, Sofiane, Grégory, Oda, Lucie, Sandy, Tina, Radia, Mathieu, John, Morgan.
Morgan, c'est celle qui avait les longs cheveux bouclés.
C'était un garçon, Morgan,
ah,
chez nous.
Ah oui, alors
on l'appelait Robert U. Mais il a beaucoup changé maintenant physiquement. Non, à l'époque, on l'appelait Robert U.
Ah non, non,
je me... Il chantait Elvis sur le premier prime.
Ah si, si, bien sûr, bien sûr.
Francesca, je viens de bugger sur ma copine.
Francesca, pardon bébé.
Radia, tu l'as dit.
Radia, ouais. Et puis je crois que celle qui manque, c'est moi. Émilie.
Émilie.
C'est une fille qui après une soirée un petit peu arrosée, a été sortie de l'émission.
Quoi?
Vous vous souvenez pas?
Non. J'étais peut-être trop petite pour comprendre aussi.
Attends, développe.
Bah, c'est vrai en plus. Hein. Après, je ne sais pas comment ça a été montré à l'antenne. 17 ans plus tard, la fille ne sait pas. Bon, en gros, il y a eu une grosse soirée pour son anniversaire.
Ouais.
Elle a outrepassé. On a un code d'honneur et un règlement intérieur.
Ah, qui dit dans les quoi.
Très sincèrement, je ne me souviens pas exactement de ce qu'on a. Mais bon, tout ce qui est vous êtes bourré à l'antenne, vous évitez. Quoi.
Ouais, ouais, ouais.
C'était pas bien. Et puis en plus, on est en 2004. On n'est pas sur la télé-réalité trash encore. Hein. On n'est pas sur du Marseillais ou les anges où ça se tape dessus, où tu les vois picoler, etc. Nous, on était vraiment des petits enfants.
Bah, c'est surtout que tu as le côté élève, tu vois, genre, t'es censé apprendre, quoi. Donc, ouais.
Et puis après une soirée, ça a un peu dérapé. Et Émilie, je n'ai jamais revenue.
Oh, mais j'ai aucun souvenir
aussi,
d'elle.
Elle voulait partir.
Elle
avait beaucoup de talent, elle était toute petite. Je sais qu'elle a fait une émission sur France 2, elle a fait N'oubliez pas les paroles de Nagui.
Ah, l'émission d'accord. préférée d'Elisa, après voilà. La Starac.
Non, c'est celle qui me harcèle. C'est pas la...
J'ai pas de nouvelles d'elle.
Et donc, ah oui, donc t'es en contact, ton groupe WhatsApp, il n'y a pas tout le monde.
Non, on est 13 dedans. On est les
c'est quand même pas mal.
On est les 13 qui avons participé à l'album Restons Amis pour l'association Greg Le Marchal. Voilà, on est tous dedans, et puisqu'on est tous toujours à fond et on soutient l'association, on fait ce qu'on peut pour l'asso. Et on a remarqué que quand on est tous ensemble, ça permet de ramener un max d'argent parce que justement, les gens sont très nostalgiques de l'époque, les gens aimaient bien notre saison, donc de nous revoir tous ensemble, ça permet de collecter un max de fonds. Donc du coup, oh, Enrique, j'ai oublié aussi Enrique.
Ah oui, c'est Enrique, il était sur le Prime d'ailleurs.
Il était sur le Prime aussi, honte sur moi. Là, tu sais qu'il est capable de m'envoyer un message que j'ai pas cité son nom, je le connais par cœur le gars. Et je sais plus pourquoi je disais ça. Donc oui, donc on est tous ensemble et on fait un max de trucs. Donc on est toujours les mêmes petits cons, mais avec 17 ans de plus dans la tronche.
Ouais.
Les blagues
avec
sont les mêmes.
Avec des enfants et tout. Ouais.
Et puis des cheveux blancs. Mais les blagues sont les mêmes. On est les bastons, enfin les petites disputes entre nous sont les mêmes. C'est hallucinant de se regarder, de se dire on n'a pris aucun recul, les gars. Ouais, mais je te rappelle que t'as pas voté pour moi. C'était il y a 17 ans.
Ah ouais. Attends, Elisa, je crois qu'elle a une question vote à te poser. Elle m'en a parlé il y a une semaine.
T'as voté pour moi, je te dois 56 centimes.
Non, désolé.
Elle, ça fait une semaine qu'elle me dit tu crois que je peux lui poser la question. Je lui dis écoute, allez, vas-y.
Dis-moi
vas-y.
Si je sais, je réponds.
Non, mais,
si
c'est... Non, mais sais, c'est sur toi c'est... puisque tu l'as vécu. Et c'est pour moi la première fois que je me suis dit ah, ok, les hommes sont comme ça. Très bien, je note. C'est ton élimination.
Le 3 octobre 2004. Tant.
Non, mais parlons-en.
Enfin,
excuse-moi, c'est une trahison. Donc, tu es nominée. Les élèves doivent choisir entre toi et je ne sais plus qui.
Morgane.
Et Harlem, alors que vous fricotiez un petit peu ensemble, décide de sauver Morgane et de t'éliminer finalement.
Ouais.
C'est à cause de lui que tu pars.
Oh ouais. Et Sofiane. Et Sofiane, tiens, je te balance.
Ah, et Sofiane. Ah, Sofiane aussi.
En fait, on est à égalité et c'est Sofiane qui a dû départager.
Okay. Non, est-ce que t'as de la rancœur depuis 15 ans ou pas
envers Soso ou Harlem?
Harlem de t'avoir sorti.
Non, parce que Soso c'est très drôle parce qu'il s'est excusé pendant des années.
Oh.
Et donc je trouve ça trop mignon et voilà, bref. Harlem, alors il faut savoir que nous on n'a plus de nouvelles d'Harlem.
Ouais.
Et on sait qu'il est en vie, qu'il est en bonne santé parce que pendant un temps on se posait vraiment des questions parce qu'on en avait vraiment plus. On sait juste qu'il est en bonne santé, qu'il va bien, mais il veut plus avoir affaire ni à la Star Academy ni à nous. Je l'entends, je le conçois, j'ai pas à juger de cette décision. J'ai eu beaucoup de mal moi en sortant de l'émission, j'ai pas compris ce qui s'est passé ce soir-là très sincèrement, mais comme les téléspectateurs, c'est-à-dire que moi les gens m'arrêtaient dans la rue, je disais mais même moi je sais pas. Arrêtez, on va lui poser la question. De la rancœur non, parce que je sais pas si... Oui, on va dire, tu me connais, je suis assez transparente. Je pense qu'il y a un vrai quota sympathie qui est né vis-à-vis de moi ce soir-là. Même des gens qui m'appréciaient pas peut-être des masses se sont dit, la pauvre, elle vient de vivre le pire truc que tu peux vivre. Quoi.
Comme Jennifer Aniston quand elle s'est fait plaquer par Brad Pitt et que du coup tout le monde l'a adoré.
Voilà. Moi, je sais pas si je me compare à Jen, mais...
T'es un peu la
Jen
française.
Mais c'est vrai. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, il s'est passé quelque chose où à 19 ans, t'es pas prête à vivre ça, et même, je pense jamais. C'est le soir de notre élimination, on est mis dans des hôtels. Donc nous, à l'époque, c'était... Bon, là, à Paris, c'est le Hyatt, mais à l'époque, c'était le Concorde Lafayette, ça s'appelait comme ça. Là, c'est le Hyatt. Et en fait, c'est c'est sur un rond-point. J'essaie de bien expliquer pour que tout le monde réussisse à visualiser la scène. Je suis en train de traverser la rue avec mes sœurs le lendemain de mon élimination. Les voitures s'arrêtent sur le rond-point pour venir me faire des câlins. Ouais. Les conductrices et les conducteurs. Je peux te dire qu'à 19 ans, c'est hyper impressionnant. Mes sœurs en panique totale parce que bon, bah, tu t'attends pas à vivre une chose pareille. Et les gens étaient là, c'est honteux, c'est abject, on te soutient, on est avec toi, peu importe le projet que t'auras derrière, on le soutiendra. Et là, moi, je suis au milieu, je suis là, genre, en pleurs, parce que je viens de quitter la Starac, donc je comprends pas trop ce qui est en train de m'arriver, la notoriété qui est en train de me tomber dessus. Je viens quand même de me faire têche devant des millions de téléspectateurs, on l'oublie pas, on l'oublie pas. Et tu vois, il se passe tellement de trucs que je ne comprends pas, et je pense que oui, il y a une sorte de quota sympathie, en fait, qui s'est créé ce soir-là, et je le sens encore des années plus tard, donc... Ouais. Ben merci gros.
Harlem, si tu nous écoutes, ce que tu dis, ça me fait une parfaite transition parce que justement, je me demande, dès que vous sortez, qu'est-ce qui se passe en fait ? Est-ce que vous êtes accompagné ? Comment tu gères ? Enfin, du jour au lendemain, tu rentres, t'es
personne,
mais
bah, inconnu, et toi,
tu ressors, t'as passé quand même tant de semaines dans la télévision des Français sur une émission qui cartonne de ouf. Donc, comment on t'accompagne après ? Comment tu gères ça ?
Alors déjà, il y a deux choses qui me semble pour moi très importante, c'est que, un, on est la saison 4. On savait approximativement ce qui allait se passer. On savait que ça allait fonctionner. Nous, au bout de 2 semaines, on sort le single, on est disque de diamant. Donc, à l'époque, disque de diamant, c'est 1 million, quand même, de ventes. Donc,
c'est énorme.
Voilà, on est sur des ventes assez huge. Donc, on sait que ça fonctionne à l'extérieur. On s'en rend bien compte avec les stars aussi qui viennent sur le plateau. Tu t'en rends compte. Et l'effervescence qu'il y a dehors à la plaine Saint-Denis. Toutes les semaines, il y a de plus en plus de fans qui sont devant la porte à t'attendre pour te croiser 5 secondes parce qu'on ne s'arrête pas. On passe vraiment, on monte dans le bus et on ne descend pas du bus, on repart au château. Donc, tu sais déjà qu'il se passe quelque chose. Moi, quelques semaines avant ma sortie, on avait fait la fameuse séance de dédicace sur les Champs-Élysées. Là, que toutes les saisons ont faites. Donc là, tu sais si t'es connu ou pas à l'extérieur.
Ouais.
Bon, moi, j'ai perdu 3-4 extensions de cheveux. Tu sais, les gens qui te tirent les cheveux. Donc, on sait qu'il se passe vraiment quelque chose. Effectivement, le plus gros stress, c'est le moment où on t'annonce que tu sors. Et très régulièrement, si vous vous souvenez bien, on pleurait tous. On pleurait pas du fait de quitter la Starac. On pleurait de se dire qu'est-ce qui m'attend dehors. Est-ce que les gens m'aiment bien ?
Ouais.
Mais est-ce que les gens m'aiment bien ? Est-ce que je sors ? Est-ce que je vais me faire insulter, taper dessus ou autre ? Est-ce que qu'est-ce qui se passe dehors ? Ouais, un peu de stress. Et là, en fait, à ce moment-là, on t'amène dans ta loge. J'ai très très bon souvenir de ma sortie, moi, parce que c'est la première fois où je revoyais ma maman. Donc j'ai un très très bon souvenir de ma sortie. On t'amène dans ta loge, on te débriefe, on te laisse respirer aussi, on t'est très entouré. La psychologue est avec toi.
Ah ouais, c'est vachement bien.
La psy est là. On est suivi par une psy pendant la Starac. Hein.
Ah ouais.
Oui, vous pouvez demander à la voir ou c'est elle vient spontanément.
Alors elle vient, elle vient.
Ouais.
Elle vient. J'ai pas envie de vous dire de bêtises en fait. J'ai le souvenir moi de la voir souvent sur les répétitions.
Ok.
Quand on était à la plaine. En tout cas, moi, c'est les moments où je faisais appel à elle. Juste, tu sais, j'en ai pas plus besoin que ça, mais ça me faisait du bien de voir une personne extérieure et de voir si j'avais toujours les pieds sur terre, si tout se passait bien. Enfin, je sais pas, voilà, je lui parlais régulièrement. On m'a demandé, alors déjà, bien sûr, t'as les numéros de téléphone de tout le monde. Si t'as quoi que ce soit, si t'as un problème, t'appelles n'importe qui, que ce soit.
Quand tu dis tout le monde, c'est qui ?
C'est Alexia, c'est Nathalie André, c'est tous les profs, c'est Nico, c'est les psys, c'est les gens de la production que je vais pas vous les nommer parce que vous les connaissez pas, mais tous les gens très entourée. Moi, la psy est venue me voir le lendemain à l'hôtel en me disant « Est-ce que tu as besoin d'un suivi psychologique, particulièrement avec ce qui vient de t'arriver, la claque que tu viens de te prendre dans la tronche ?» Moi, j'ai dit que non, j'ai juste le cœur un petit peu brisé, mais on ne va pas tous voir un psy quand ça nous arrive. Donc non, ça allait. Moi, là, je te parle réellement pour moi. Je ne sais pas si ça s'est passé comme ça pour les autres, parce qu'on n'en a pas trop parlé. Alors après, si la question c'est est-ce qu'on a un garde du corps ou un truc comme ça avec nous ? Non.
Ça veut dire que le lendemain, tu check out de l'hôtel et...
Non, on reste plusieurs jours
dans
à l'hôtel.
Alors,
moi, je te dis, moi, j'ai un petit peu un truc compliqué. On reste plusieurs jours à l'hôtel parce qu'il y a toute la promo à faire de l'éliminer. Tu sais, il y avait l'émission de Morandini à faire sur Europe 1, il y avait la méthode Coé à faire. Eh oui, là, vous vous dites, elle est ancienne,
on est
celle-là.
Très, très
vieux. On est en 2004, on est en 2004. T'as la méthode Coé à faire, t'as plein d'émissions, t'as toute la presse aussi auxquelles il faut répondre, etc. Donc, t'as beaucoup de monde avec toi. Ensuite, tu rentres un petit peu chez toi. Et moi, en fait, après, je sais plus pourquoi, on m'a renvoyée dans un appart-hôtel. j'ai souvenir de l'appart hôtel à Opéra, je crois. J'étais avec mes sœurs, encore une fois. Je suis tout le temps avec mes sœurs.
On les embrasse. Edia
et Boshra. Voilà. Edia et Babou, on est toujours toutes les trois. Et elles ont été très présentes aussi. Raison de plus aussi pour laquelle je leur ai dit que j'avais pas besoin d'un suivi parce que j'étais très entourée et très cadrée. Donc j'avais pas besoin.
Alors, si vous suivez Karima sur les réseaux, vous connaissez forcément Edia. Ouais, au moins une des deux. C'est
parce
un
qu'on
clan.
Bosse ensemble.
Voilà, exactement. Mais c'est vachement important parce que moi, je vous connais. Alors. Coulisses du podcast, Karima et moi on se connaît un peu.
Et là vous vous dites c'est pour ça qu'elle se livre autant parce que généralement elle dit pas les deux Karima.
Mais c'est vrai que j'ai toujours connu Edia, je vous ai connu en même temps et ça aide d'avoir quelqu'un à tes côtés qui est un peu plus vieille et qui connaît le métier.
Connaît le métier et puis qui te remet à ta place quand tu as besoin d'être remis à ta place parce qu'il y a des moments où tu t'envoles, on va être très honnête, je sais pas si tu comptais arriver à ce stade-là.
Non, pas spécialement.
Non, mais il t'arrive tellement de choses qu'à un moment donné, c'est très bête, mais moi, je vivais avec mes sœurs et quand elles me disent Karima va acheter le pain, ah non, je peux pas.
Bah oui,
bien sûr, quand je l'ai lu, le non, je peux pas. Et c'était pas un non, je peux pas, je me la raconte, c'était non, j'ai peur de descendre toute seule, en fait.
Ah ouais.
Donc, il y en a une qui va descendre avec moi, je veux bien aller chercher le pain, c'est pas un problème, mais je veux pas marcher seule dans la rue, j'ai trop peur des gens. Alors que les gens étaient gentils.
Ouais.
Mais tu sais, les gens ils te parlent. Combien de fois avec mes sœurs, les gens m'ont fait des câlins dans la rue parce que j'étais la câline de l'équipe. Dès que quelqu'un était triste au château, je le prenais dans mes bras, je le rassurais. La distanciation sociale n'existait pas. je le rassurais, etc. Donc dans la rue, moi, les gens venaient et me faisaient des câlins. C'est chaud quand même. Enfin, c'est quand tu connais pas, ça fait un peu peur quand même.
Ouais.
Hein. Donc j'étais souvent accompagnée de mes sœurs tout le temps. Donc oui, on n'a pas été. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont critiqué l'émission et la prod. En tout cas, moi, comme je l'ai vécu, j'ai été extrêmement entourée, voire limite trop à un moment. Tu vois, à un moment, t'as envie de dire stop. Je veux reprendre un petit peu une vie normale, donc je vais arrêter d'être dans tout ce délire-là tout le temps entourée.
Il y a quelques années, alors c'est vraiment, je fais le grand écart, mais François Xavier de
Maison
Non, FX The Secret.
Ouais,
FX
The Secret Story, qui donc
s'est suicidé.
À l'époque, on avait vachement pointé du doigt la prod, je sais pas qui c'était, qui disait qu'il avait mal été accompagné et tout. Après, bon, c'est un cas un peu à part, mais je me demande souvent, tu vois, comment on accompagne les candidats après.
Après, il y a
deux choses. Exemple, le Loft, c'était vraiment la première émission de télé-réalité.
Ils se sont tous fait avoir sur le Loft. Personne pensait que ça allait être comme ça.
Et ils disent tous, enfin bon, là, ils ont un peu mis de l'eau dans leur vin, mais à l'époque, ils disaient, genre, ça a été hyper violent de sortir du jour au lendemain, d'être une énorme star, parce que c'était vraiment, c'était les stars les plus grandes de France, quoi. Enfin, vraiment. Donc la Starac, quand même, vous avez été.
Après, il y a deux choses. Il y a deux choses qui, pour moi, sont assez importantes. Ça fait. Oui, je fais toujours ce métier à l'heure actuelle, donc on peut se dire que je suis gentille et que j'ai dû le corps des choses. Pas du tout. Il y a deux choses. On te prépare à tout dans ces différents métiers artistiques, particulièrement à la Starac où c'est une école. Il y a un domaine où on ne peut pas te préparer, c'est la notoriété. Il n'y a pas de cours pour devenir célèbre.
Ouais.
Donc pour le gérer, après, c'est compliqué. Un deuxième truc qui, pour moi, me semble très important, et je ne leur dois rien à l'heure actuelle, à part le joli coup de pouce que j'ai eu il y a 17 ans, la prod, ce n'est pas ton père, c'est pas ta mère. Et à un moment donné, ils vont t'accompagner, mais à un moment donné, ils vont te lâcher la main aussi.
Ouais.
Parce
qu'ils ont
plein de choses aussi à faire, et c'est aussi à toi de gérer, à toi de bien t'entourer également. Alors, je ne suis pas en train de dire que ce qui arrivait à ce pauvre François-Xavier était machin. Bien entendu, c'est horrible et on ne le souhaite à personne. Mais tous les autres candidats qui sont approximativement comme moi, tu vois, on est tous stables, etc. Je ne connaissais pas François-Xavier, donc je n'oserais rien dire. Mais j'avais entendu dire qu'il n'était pas très stable aussi. On est tous capables, on est tous des adultes, on est tous grands.
Et j'imagine que quand on vous sélectionne avant, pendant le casting...
Il y a des tests psychologiques.
Voilà, c'est ça. On s'assure que c'est quelqu'un qui pourra gérer...
Bien sûr. On a, après le casting, tu as le casting à la tour TF1. Quand tu passes le casting de la tour TF1, c'est avant ou après ? Je ne sais plus. Enfin bref, dans ces eaux-là, c'est dans les mêmes semaines. De toute façon, c'est à peu près en même temps. Tu as un test
PCR,
médical, bien sûr.
Oh, blague Covid. Blague 2022.
Non, tu as un test avec les médecins et tu as un test psychologique. Ouais.
Ah ouais. Mm. Tu as un test de QI. Parce qu'il y en avait un pour le Loft et Loana, elle avait eu le plus gros score.
Ah, je crois pas.
Et
ah,
oui, dans des plays aux haters.
Ah, je n'ai pas souvenir d'un test de QI. Ou alors j'ai séché ce jour-là. Pas souvenir.
Question qui fâche.
J'ai répondu sur Harlem, je peux répondre à tout.
Y a quelque chose qui est très présent, je trouve. Alors, certainement dans toutes les saisons, mais moi, ça m'a marqué sur la une. Et ça m'a marqué aujourd'hui avec mon regard plus adulte. C'est les looks des candidates. Et ce côté où, en fait, on a sexualisé tout le monde parce que c'est de la télé, que les filles, elles sont censées montrer leurs jambes et avoir des décolletés. Et tu vois... Il y en a plusieurs qui ont pris la parole des années après pour dire ouais on m'a mise dans, je crois que c'était Olivia Ruiz, oui, voilà, oui, dans une mini jupe, c'est pas du tout moi, j'aurais jamais fait ça, ou même Élodie Frégé, enfin tu vois, il y avait des dégaines où elle disait c'était pas elle du tout, mais voilà, t'as des gens derrière et puis t'as 19 ans et tu dis oui parce
tu te laisses
que
faire, hein.
Voilà, et toi avec, est-ce que t'as vécu ça et est-ce que avec, quel regard tu portes dessus avec le recul?
Alors oui, je l'ai vécu avec un grand sourire, parce que moi, sur le premier prime, on disait à peu près les looks qu'on avait envie d'avoir et l'image qu'on voulait renvoyer.
Et t'as demandé
quoi? Moi, à l'époque, j'étais hyper pink. Mais tu sais, mes pink...
La chanteuse?
Oui, pink, okay, la chanteuse.
Pas la couleur.
Non, non, non. Et donc, tu vois, je voulais une sorte de baggy avec un petit crop top ou un truc, tu vois, mais avec des grosses Vans. Oui, les Vans, c'était à la mode à l'époque. On ne me juge pas. Et là, je me retrouve sur le premier prime, j'ai une mini-jupe et j'ai des talons genre de 10 cm. Oh. Et je n'avais jamais marché en talons auparavant. Avant, et si tu regardes des images de moi, j'ai l'air d'une tortue qui essaie d'avancer, mais c'est parce que j'essaie de rester stable et pas me casser la gueule en direct sur un prime sur TF1. Donc en vrai, ça m'avait fait rire, mais le truc, c'est que moi, j'avais un rapport, je sortais de l'adolescence, donc j'avais un rapport très compliqué avec mon image, avec mon corps. Et en fait, c'est vrai qu'ils m'ont féminisée, mais je pense que l'avoir demandé aussi, parce que du coup, j'avais envie d'être jolie en fait. Donc moi, ils m'ont beaucoup aidée. Et à l'époque, nos stylistes, ils s'appelaient Noy Aaron et ils nous écoutaient beaucoup. Vraiment.
Okay.
Ils nous écoutaient beaucoup. Donc du coup, tu vois par exemple Sandy, elle se sentait pas à l'époque. J'ai oublié Sandy tout à l'heure dans les noms. Bref.
Si tu l'as dit.
Non, non, je l'ai dit. Sandy, tu vois, elle aimait bien être en pantalon. Sandy était la fille qui était très rarement en robe. De temps en temps, il la mettait en robe parce qu'elle demandait, ou alors parce que ça allait sur la thématique de son tableau. Faut pas oublier qu'il y a aussi certaines de nos tenues,
ouais,
qui étaient.
Sandy, elle dansait tout le temps.
Elle dansait tout, ouais, le temps. Donc du coup, la fille, ouais, était la tout le temps en pantalon, pratique, c'est, ouais, compliqué. Après, t'avais aussi tes tenues qui allaient par rapport à tes tableaux. Donc du coup, là, tu n'es plus en tenue de prime. Tu es dans une sorte de déguisement. Tu es dans tenue de scène.
Ouais.
Tu vois, moi, à un moment, je me rappelle très bien avoir une sorte de filet de pêche avec un soutif en dessous. Sauf que et pourtant, j'étais assez pudique, mais j'étais dans le rôle. Parce que là, j'allais faire une performance dans un tableau. Donc, j'allais pas passer le prime habillé de cette façon. J'allais passer les 3 minutes comme ça. C'était un costume,
oui, voilà,
un costume de scène. Donc ça nous dérangeait pas. Après, moi, comme je vous le dis et je le répète beaucoup, on est la saison 4. Donc, il y en a qui ont morflé avant,
ouais,
nous, pour,
ouais,
que nous, on puisse après être tranquille. Et je dis ça parce que c'est une conversation qu'on avait eue à l'époque avec Jennifer au sein du château.
Quelle femme exceptionnelle.
Eh ouais, on l'aime, hein.
Non, mais d'ailleurs, dans la première saison, ce qui est choquant, parce qu'ils ont republié les primes sur YouTube pendant le confinement.
On va en parler après.
Ce qui est choquant, c'est dans la présentation de Jennifer,
il
y a ses mensurations.
80... Ouais, ouais, ouais,
y a alors que c'est la seule.
Ouais.
Donc, ça, c'est hyper choquant, en fait. Ouais. Quand tu regardes avec tes yeux de 2022, tu te dis. Alors que moi, à l'époque,
moi,
j'avais 6 ans,
qu'elle prenne la parole là-dessus, mais elle le fera pas. Elle va
non,
pas
et puis à vrai dire, il me semble qu'Alexia, elle a pris la parole dessus en disant que c'était des erreurs. Voilà, parce que.
Ouais.
Si, elle a pris la parole sur
Jennifer,
quotidien. Oui, sur quotidien.
Elle l'a dit.
Elle a dit, ouais, ouais, elle a dit qu'elle avait pas très bien compris, mais qu'elle s'était dans le, enfin, elle avait 18 piges à l'époque, voilà quoi.
Mais c'est vrai qu'avec du recul, tu nous refais faire tous l'émission, on fait tous différemment. Hein,
bah oui, oui. Donc, normal, c'est normal.
On gère maintenant, on contrôle.
Une fois que l'excitation est retombée, qu'il y a une autre saison, enfin, tu vois, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu... Une fois qu'on arrête de te faire des câlins dans la rue, il y a,
non,
y a ce côté-là.
Juste pour la petite blague, il faut savoir que les saisons, elles arrivent comme ça, les unes après les autres. Mais nous, un jour, on est à l'hôtel, on est sur une promo. Parce que aussi, tu fais la promo en province pendant que les autres, ils sont encore à l'intérieur du château. Toi, tu continues à être la candidate. Et là, on est tous à l'hôtel et on regarde. Et là, il y a la promo pour la saison 5. Et on dit, on n'a même pas encore une autre gagnante. Tu dis, ok, on va vite passer à autre chose. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai fait de la scène pendant 1 an et demi. Parce que je me cherchais un peu, je savais pas trop ce que je voulais faire. Moi, je voulais pas être chanteuse, mais j'avais tellement d'opportunités que tu les fais. Tu les fais.
Ah oui, alors c'est ça, on t'appelle après, il y a plein de gens, plein de
ah ouais, c'est hallucinant. T'es obligé de faire un tri, t'es obligé de faire attention à qui est véreux, qui est honnête. Faut faire attention à plein de choses. Et nous, très rapidement, après, j'ai été très très vite contactée par W9.
Ok.
Donc moi, ça a été très très court. J'ai eu un laps de temps... Ouais, j'ai fait un an, à peine un an quoi. À peine un
ah
an,
ouais.
À peine un an. Ça a été hyper rapide. Donc moi, c'est vrai que j'ai pas grand chose à dire sur... J'ai pas galéré ou
ouais,
autre.
Ouais.
Je sais que mes copains, ça leur est arrivé parce qu'on s'est tout raconté. On s'est fait une petite soirée revival le premier jour de l'enregistrement de l'album Restons Amis. On s'est fait une soirée où on a demandé à ce que les conjoints et les enfants ne soient pas là,
ouais,
où il n'y ait que nous. Et je sais pas, il y a eu une sorte de... on a ouvert la boîte de Pandore et on a tout sorti. Tout ce qui avait gêné, blessé, ce qui s'était passé après aussi pour certains. Parce qu'il y en a certains avec qui tu restes extrêmement proche. Moi, c'est mon cas avec Francesca, par exemple. Je peux te dire à la minute ce qui s'est passé dans sa vie, limite. Mais ce n'est pas le cas pour Enrique. Je ne sais pas, on s'est perdu de vue sans le vouloir. Parce qu'après, la vie fait que chacun retourne aussi dans sa ville. Donc déjà, bah, tu as une proximité avec les Parisiens. Forcément, eux, tu les vois. Les autres,
Ah oui.
Après le message de Noël, du jour de l'an et de l'anniversaire, tu te perds
ouais,
de
surtout
vue.
Que c'était une période où il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc on ne pouvait pas continuer de se montrer au quotidien. Ouais.
C'est dur, ça.
Psychologiquement, je n'ai aucune idée de comment j'aurais géré les réseaux sociaux.
Oui, parce qu'aujourd'hui, alors, à titre de comparaison, les candidats de Koh-Lanta, qui sont tous présents sur les réseaux sociaux, tous les soirs de prime, ils s'en prennent plein la gueule. Mais vraiment, c'est un cauchemar pour eux.
Et ça, ça peut être le truc le plus difficile, je pense, s'il y a le revival de Starac, si ça revient. Je pense qu'il va falloir qu'il y ait vraiment des gens derrière pour bien contrôler les réseaux, parce que ça va être n'importe quoi. Et là, t'es contente d'être une vieille et d'être l'ancêtre de cette émission. Toi, t'as pas vécu ça. On était sur les prémices. Il y avait deux, trois...
John, il est pas sur l'album Restons Amis ?
Si !
Si !
Si, si !
Mais je l'ai pas vu.
Ah si, si ! Il est juste pas venu aux 20 ans. Parce que John, il est dans une comédie musicale, il est dans Notre-Dame de Paris, en Asie. Il fait la tournée asiatique. Ouais. Et en fait, son planning.
Avec la chanson Belle, c'est exactement. Un mot qu'on dirait.
Ouais, il... Et il y a toujours. Y a comment il s'appelle ? Il est toujours dedans. Zut, parce que le mec.
Garou ?
Non, l'autre.
Non. Bah non, je suis bête. J'ai honte.
Attends. Garou, Patrick Fiori, le troisième, c'était.
Ah oui, je vois. Mais j'ai
le
pas
Québécois ?
La voix ?
Oui,
Daniel
oui,
Lavoie,
c'est ça.
Et lui, il est toujours, il fait toujours Frollo.
Ah ouais, mais il doit plus, il a 20 ans de plus quoi.
Bah il a 20 ans de plus, mais il a toujours la même voix. J'ai regardé une vidéo il y a pas très longtemps, le gars il en voit encore.
Ah ouais.
Attends, et il joue qui, John ?
Il fait Phébus et Gringoire. D'un soir à l'autre, soit c'est Patrick Fiori, soit c'est Bruno Pelletier.
Ok.
D'un soir à l'autre, ça change. Et c'est pour ça qu'il n'était pas là aux 20 ans de la Starac. C'est juste parce qu'il était sur scène.
Ok.
Pas parce qu'il
je pensais qu'il était fâché.
Non, pas parce qu'il
très
non,
bien.
Non.
John, pour ceux qui ne se rappellent pas, il avait chanté. I'm a believer. Il l'avait chanté. Ouais, je sais pas pourquoi, j'ai un souvenir. Ouais,
c'était notre rocker.
De cette chanson. Qui est-ce qui chantait ? C'est Smash Mouth. Smash Mouth.
C'est ça.
I'm a believer. Ouais. Voilà.
C'était la BO de Shrek.
Shrek, exactement.
Ouais, c'est ça.
Exactement.
On a les références.
Ouais. Non, mais c'est vraiment ça. Bon, allez. Parlons choses sérieuses.
Allez, qui d'autre nous en veut ?
Non. Moi, j'ai une vraie question. Les stars en coulisses.
Oh là.
Alors. Toi, t'as fait des duos.
Moi, j'ai eu le meilleur duo de ma vie parce qu'ils m'ont fait le cadeau de ma vie. Je suis une fan des Corrs.
Ok.
Et les Corrs sont venus et chanter avec moi.
Il y avait du lourd à l'époque.
Ouais. Et je me souviendrai toujours du moment où ils viennent me voir. C'est Michael Jones qui vient me voir et il dit franchement, Karima, elle a pris cher quand même. Il s'est passé parce que nous, on est revenus au château après notre élimination. On est resté une semaine et machin, etc. On a fait le prime spécial tournée, etc. Donc, on était revenus. Et Michael, je me suis toujours très, très bien entendue avec Michael Jones. Et Michael dit à la prod, s'il vous plaît, laissez-moi lui annoncer une bonne nouvelle.
Ah, c'est mignon.
Ouais.
C'est gentil.
Et il me dit, y a un groupe qui va venir chanter avec toi. Et là, les larmes me sont montées aux yeux. Et il me dit pas que tu sais qui c'est. Je dis, c'est pas possible, ça peut pas être les Corrs. Il me dit, c'est les Corrs. Et il m'a dit, là, tu vas rencontrer les Corrs. Et pendant que tout le monde tremblait, parce qu'il y avait Jean-Jacques Goldman qui venait sur le plateau, etc., moi, je pleurais parce qu'il y avait les Corrs. Parce que pour moi, c'était. Je les aimais, je les aime toujours, depuis que j'ai 7 ans. Et là, quand tu te dis que tu vas chanter avec eux, c'est un truc qui est. Tu vois, chacun avait sa référence, en fait. Ouais. Chacun avait sa star. On a reçu Tina Turner sur le plateau. Il y a eu les Destiny's Child, etc. Mais chacun. On était excités, bien sûr, de les rencontrer. Ouais, mais chacun avait une star avec laquelle il voulait chanter.
Toi, si après, on t'avait demandé, t'aurais dit c'est les Corrs ?
À l'époque, en 2004, c'est clairement c'était les Corrs et Pink.
Ok.
J'avais venu l'année d'après.
Toi, t'aurais voulu chanter avec qui, Elisa ?
Bah, Jennifer.
Oh oui.
Non, Jennifer, c'était différent. Elle venait toutes les 3 semaines.
Beyoncé. En plus, je pense que j'ai la même voix, donc.
Alors, c'est pas Beyoncé qui est venue, nous, c'est les Destiny's Child.
Ok. Oh.
Elles sont venues à 3.
Elles ont fait Survivor ? Elles ont fait un medley ?
Elles ont fait un medley avec Oda.
Oh là là.
Ah, mais
et
oui,
après, elles ont chanté Lose My Breath.
Ah ouais.
Ah ouais. Ouais.
C'était très drôle la manière dont elle virait Oda, tu sais, de la scène. Genre, dégage maintenant, c'est notre single.
C'était très drôle.
Et les Destiny's Child en coulisses, tu les approches pas ?
Tu les approches pas, non.
Et il y a les répètes quand même avec elles ?
Ouais.
Ah, quand même.
Ah oui,
elles jouent le jeu.
Ah bah, c'est une obligation. tous les artistes ont la même chose. C'est il y a un code à respecter. Tu fais les répétitions avec le candidat. Tu discutes un petit peu aussi avec le candidat. T'as le duo avec le candidat. Non. Le seul artiste qui a refusé de faire la Starac, c'est Justin Timberlake, parce qu'il a refusé de faire un duo avec un candidat.
Mais non.
Et en fait, la charte, c'était tu viens, mais tu partages.
Ouais, oui.
Et ça en dit beaucoup sur ce personnage.
Ah ouais, j'aime pas trop apprendre ça.
Bah c'est moi, c'est Nathalie André qui me l'a dit, enfin qui l'a dit devant moi en interview radio. Donc je me dis que j'ai le droit de le répéter. Ouais, Nat, j'espère vraiment que tu l'as dit que c'était in et pas off, parce que sinon je suis foutue. Mais voilà, parce qu'on s'est toujours demandé pourquoi Justin n'était pas venu, même Britney est venue.
C'est vrai.
Donc,
toi, t'as vu Britney ?
J'étais là le soir de Britney.
Ok.
Mais c'était pas ma saison.
C'était 2006 ?
Ah oui, ok.
C'était la 8, je crois, c'était la dernière
Starac.
Hein.
Ah ouais, non, elle est venue pour la dernière ?
Mais
elle avait chanté avec Johanna et tout ça.
Est-ce qu'il y a des artistes avec qui...
Elle était venue pour Womanizer.
Ah ouais.
Ah oui, c'est la dernière.
Est-ce qu'il y a des artistes en coulisses où tu peux prendre le temps de tchatcher, Johnny,
quasi tout le monde. Ah ouais. Johnny, de toute façon, il connaissait tout le monde.
Ouais, Johnny, était hyper
Johnny et Laetitia étaient des super gros fans de la Starac. Ils connaissaient tout le monde et ils venaient de parler. Après, nous, on a une Starac très particulière, je le rappelle, parce qu'on avait Grégory Lemarchal. Donc, tout le monde voulait chanter avec Grégory Lemarchal.
Ah ouais.
Donc, tout le monde voulait parler. Donc, du coup, tout le monde venait nous parler en mode super cool. Moi, je me souviens quand même de Jean-Michel Jarre, qui était en tournée mondiale. Le mec, voilà, qui fait un arrêt par Starac, et le type connaissait nos prénoms à tous.
Ah ouais.
Alors après, mais tu sais pas si c'est les attachés de presse ou machin, ouais. Mais tout le monde nous connaissait.
Le job. Ouais, voilà.
Tout le monde nous connaissait. Et même à l'extérieur, des fois, on avait des messages d'artistes de l'extérieur qu'on connaissait pas. Moi, ça m'est arrivé avec un artiste qui est devenu un super ami à moi. On m'a dit, je peux le dire, Matt Pokora.
Ok.
Et on me dit, en fait, Matt était en promo dans ma ville, à Reims, et il faisait une radio, Champagne FM. Et moi, j'avais été stagiaire chez Champagne FM. Donc, tout le monde disait, on a carrément une interview tout à l'heure. Il dit, embrassez-la, je l'aime beaucoup, etc. Donc, moi, j'apprends ça de l'extérieur. Sauf que moi, Matt Pokora, je sais pas qui c'est.
Bah oui.
C'était la même année, c'était en même temps.
Nous, c'était Matt des Link Up.
Ah, bien sûr.
Nous, on connaissait pas Matt Pokora et on savait pas qu'il avait un succès extérieur. J'ai dit, ah, super, c'est qui? J'ai eu cette attitude un petit peu de pas très sympathique. Et on me dit, si, c'est Matt des Link Up. Je dis, ah, d'accord, il s'appelle Pokora. Il me dit, non, mais Karima, tu déconnes. Il est limite premier des ventes. Je suis enfermée, les gars. Ouais. Je ne sais pas ce qui se passe dehors. Je ne sais pas. Voilà, on avait plein de messages comme ça qui venaient d'un petit peu partout. C'était archi chouette. C'était une autre vie, hein.
Ouais. Et il y a eu Maria Carré ta saison?
Non, elle est pas venue avec Nolwenn.
Elle a fait la 2.
Elle veut parler à Nolwenn
et tout. Il y a des stars qui sont venues au château.
Ouais, mais j'étais pas là. Oh. Et là, c'était le truc qui m'a fendu le cœur.
C'était qui ?
Il y a une histoire qui m'a fendu le cœur. Même 7 ans plus tard,
à ce
ça
jour,
passe
ça fait encore mal.
Ouais. Un hélicoptère qui se pose dans le parc du château et c'est Gilo.
Oh là là.
Waouh.
Jusqu'à ce jour, je l'ai pas avalé. Je l'ai pas digéré le truc, ça passe pas. Elle est encore là, à côté de ma glotte.
Elle avait chanté en duo avec qui ?
Non, elle avait pas fait de duo, elle était venue au château.
Juste comme ça.
Ouais, venue au château. T'as des artistes qui ont pas chanté sur le plateau. T'as Lenny Kravitz qui est venu au château, t'as Phil Collins qui était venu au château, et ils avaient pas chanté.
Je me rappelle très bien de Phil Collins, c'était la saison avec Georges Alain, qui est donc, comme vous le savez, mon préféré. Et en fait, je me rappelle même du montage de La Quotidienne, où on annonce Phil Collins arrive, et ensuite, paf, Georges Alain au confessionnel qui dit non mais attends, moi j'ai appris à jouer de la batterie avec Genesis, donc c'est incroyable et tout. Et il était venu, il avait fait de la batterie. Alors, tu vois, moi Phil Collins, c'est pas ma passion, mais j'avais trouvé ce moment magnifique.
Après, il parle bien français, Phil Collins.
Il connaissait tous les noms des candidats. Il avait passé vachement du temps avec tout le monde, franchement.
Mais la plupart des artistes, c'était ça. Après, nous, c'est le seul truc
qu'on leur en voulait.
Mais c'est le seul truc où on leur en voulait à la prod, c'était pas de nous prévenir quand les stars arrivaient, parce qu'on avait des looks, des dégaines. On était ignobles en jogging avec les cheveux qui partaient et tout, t'étais pas maquillée, tu ressemblais à rien. Et là, t'as Lenny Kravitz qui entre et tu fais non mais sérieux, pas me prévenir. Alors s'il vous plaît, les surprises étaient magnifiques, mais on était dégueulasses.
Merci pour ces belles anecdotes. Elle débrief. Il y a 2 ans, vous vous en rappelez, pendant le confinement, Endemol nous fait le plus beau des cadeaux, alors qu'on est tous en dépression chez nous. Il rebalance tous les primes de la Starac sur YouTube. Vous pensez bien qu'on s'est rué dessus. On avait que ça à faire en même temps, clairement. On en parlait, moi, avec des copains, je m'en rappelle Mathieu, que tu connais. On en parlait ensemble et il me disait, c'est quand même problématique, cette émission, quand on la regarde avec nos yeux beaucoup plus woke de 2020. Et effectivement, il y avait pas mal de passages qui aujourd'hui sont un peu plus durs à regarder. Je vais citer au pif quand on force Jennifer à perdre du poids, qu'on dévoile son poids, son tour de poitrine devant des millions de téléspectateurs, quand Mario enfile une chemise et qu'il veut s'assurer, je cite, que ça fait pas pédé, hein. Et à l'époque, donc il y a 2 ans, j'avais écrit un article pour dire tout ce qui n'allait pas dans cette saison avec notre regard 20 ans après. Un article qui n'avait pas plu aux principaux intéressés puisque Patrice McTave, que je salue, avait tweeté. En effet, bien heureusement, en 2020, nous pouvons jouir de programmes qualitatifs tels que les Marseillais, les anges de la télé-réalité, où la conduite sociale rationnelle est toujours respectée, puisqu'on met des bips et des strings. Patrice, pourquoi t'énerves-tu, en fait? Je ne faisais que de parler de quelque chose avec le regard. Et effectivement, je pourrais dire autant de mal des Marseillais, mais ce n'était pas le sujet de l'article. Et ensuite, Jean-Pascal, JP, l'ami de Jennifer, avait répondu à Patrice McTave. Il a dit « Arrêtez de vous moquer, au moins, chez elle, il donne une chance à des sous-stagiaires pour les articles. » Non, Jean-Pascal, je ne suis pas une sous-stagiaire. Il n'existe pas de sous-stagiaire. Il y a des stagiaires qui écrivent des très bons articles chez elle. Donc, en tout cas, ils n'ont pas trop apprécié que je pointe du doigt des évidences, ce que je peux entendre, mais en l'occurrence, je ne dénonçais pas leur comportement, je dénonçais la façon dont c'était mis en scène. Vraiment, l'histoire de Jennifer et de la perte de poids forcée, parce que ça a été vraiment un truc très gros dans l'émission,
où on la suivait tous les jours, la pomme et le gâteau au chocolat.
Exactement.
Ouais, tu manges ta pomme.
Et en fait, ce qui était hyper triste, c'est qu'elle-même était convaincue d'être horrible, quoi, alors que franchement, elle était très bien.
Ouais. Ah oui.
Donc,
la preuve, elle avait défilé pour Gauthier juste après sa sortie.
Ah ouais,
donc,
ah ouais.
Ah oui, bah la robe de mariée.
Oh là là.
Tu sous-estimes un peu Jennifer.
Pas du tout, pas du tout. Mais écoutez, je leur en veux pas d'avoir été fâchée contre moi.
C'est JP.
C'est de bonne guerre.
C'est JP et Patrice. Patrice, c'est le mari de Lucie de ma
tout
saison.
Tout à fait. Ah oui, mais oui, c'est bah bon, oui. Alors en parler.
J'adore ce crossover.
Je sais que Patrice, il est comme ça.
Ah ouais.
Patrice, il est sans filtre. Et c'est, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, c'est comme ça. Il est comme ça.
Mais moi, je l'adore. Je l'adorais dans la Starac.
Mais il est vraiment comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, je sais même pas s'il te l'a dit de manière très fâchée, je pense qu'il te l'a dit telle une pensée. Enfin, en tout cas, le Patrice que je connais, j'entends son ton qui va avec. Après, moi, je me souviens pas de l'entièreté de ton article, mais je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Je pense que si je revoyais certaines séquences de ma saison, peut-être que ça me troublerait aussi, parce qu'on était sur une autre narration à l'époque. Et que toute la société acceptait ça.
Exactement.
Oui, et comme c'était reflet de la société, ils le diffusaient tel quel.
Mais aujourd'hui, ça ne passerait jamais.
Non,
voilà,
bah,
impossible.
Et puis, tu sais quoi, je pense que très sincèrement, une Jennifer ou n'importe quel autre candidat dirait « Tu t'es pris pour qui ? Elle me foutre au régime. »
C'est clair.
Je pense qu'il y aurait aussi une prise de position.
Exactement.
Tu vois ?
Mais j'adorerais que Jennifer, elle en parle un jour. Enfin, je ne veux pas qu'elle se lance dans une tribune.
Après, c'était
ça.
Un truc qui s'est passé il y a 20 ans. Est-ce qu'elle a pas envie de le laisser derrière elle ?
Justement, comme, tu vois, la Starac a surfé sur le phénomène il y a 2 ans pendant le confinement, ça aurait été le moment rêvé pour dire « ça, on aurait, tu vois, avec le recul, on n'aurait pas dû le diffuser. » Enfin, tu vois, je pense que ça aurait été aussi hyper noble de la part des principaux intéressés de le dire.
Ouais, la plupart d'entre nous, on est plus restés bloqués sur nos looks de l'époque.
Ouais, j'avoue.
Que
sur
les séquences.
Ah, j'avoue, il y en a, ça fait mal aux yeux. Elodie Frégé, elle a 40 couleurs de cheveux différents dans ses mèches, dans ses rajouts, c'est très triste.
Oda aussi. Capillairement, ce qu'ils lui ont fait, c'était pas gentil.
Les coupes de cheveux sont difficiles.
Ouais. Ah ouais.
Bah, les sourcils.
Les sourcils. Bah, Jennifer, les sourcils.
Ah, moi, je peux pas critiquer. C'était pas au top non plus.
Non, mais elle était très belle.
En tout
mais,
cas,
mais ouais, t'as pas tort.
Mais ouais, mais écoute, c'est pas grave. Mais c'est bien de le signaler. En octobre, il y a eu la réunion comme Friends, comme Harry Potter, mais la Starac. Et c'était pas un prime, c'était 3.
C'était génial.
Diffusé, comme vous le savez, si vous nous écoutez fidèlement, en avant-première sur Salto.
Notre
plateforme préférée avec Elisa.
J'étais ravie d'avoir l'abonnement.
Je pense que tu l'as pris pour ça.
Non, je l'ai pris pour Friends et après, je l'ai gardé.
T'en as pensé quoi, toi,
Pour bien
Elisa.
D'autres choses.
Et après, Karima, tu nous raconteras les coulisses.
moi, j'ai adoré les revoir.
Oui.
J'ai pleuré. Voilà, j'ai pleuré. J'étais trop contente de revoir d'autres passages de l'émission. J'étais trop contente qu'ils chantent des chansons marquantes de leur aventure. J'étais trop contente de revoir Jennifer, évidemment. Et puis, il y avait des saisons que j'avais un peu moins aimé, mais j'étais contente de revoir les candidats. Je trouve que ça allait hyper bien. Nikos, tu vois...
Ah, il fait le job toujours,
Nikos. Il fait tout le temps le job. Tu sens qu'il est ému, qu'il est nostalgique. Et il est comme nous, en fait. Et non, j'étais trop contente. Et même des fois, je me regarde quelques petits extraits. Je l'avoue.
Non. Oh, si, tu regardes quoi ?
Alors, je regarde quand Jennifer, elle chante. Je regarde...
Le pic d'audience, c'était Elisa, en fait.
Ouais, c'était moi. Je regarde... j'aime pas mal la séquence Jennifer-Jean-Pascal, parce que je m'attendais pas du tout à ce qu'elle s'exprime sur leur relation, sachant qu'elle ne parle jamais. Et là, elle y est allée et tout. J'étais très étonnée, un petit peu gênée de voir leur premier bisou, par exemple. Je ne voulais pas voir ça. Mais non,
j'ai pas eu une petite histoire comme quoi en coulisses elle parlait à personne.
Si, si. Non, alors si, j'étais dans le là, je vous raconterai.
Ça va m'énerver. Non, en tout cas, ce qui a été dit, Jean-Pascal avait expliqué que elle est arrivée, elle a chanté sa chanson et elle est repartie et qu'il aurait aimé qu'elle fasse un peu plus avec eux, qu'elle soit là un peu plus présente et tout. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai?
C'est quoi ta version des faits?
Alors, non mais c'est un petit peu long.
On a
tourné à la scène musicale à Paris.
Oui.
La scène musicale, les coulisses sont sur plusieurs niveaux. Il y avait un niveau où il y avait la loge de tous ceux qui ont gagné l'émission ou qui étaient en promo et qui venaient avec leur staff pour le maquillage, machin, etc. Et il y avait un autre niveau où il y avait tous les candidats, mais chacun avait sa loge aussi à ce niveau-là. C'est pas genre vous êtes tous parqués ensemble et les autres, ils sont traités comme des stars. Oui. Pas du tout. Il y avait juste ces deux niveaux-là. Moi, j'allais entre les deux niveaux parce qu'on a tourné l'émission un dimanche. Et moi, je sortais de la matinale et j'avais juste demandé, pas de venir avec un staff de make-up et autres, j'avais juste demandé un endroit pour dormir parce que je me réveille à 2h du matin et qu'enchaîner un tournage jusqu'à minuit, c'est un petit peu compliqué. Donc, j'étais au même étage. Donc déjà, ça t'empêchait d'aller d'un étage à l'autre parce que c'est quand même assez éloigné. Jen, à ce moment-là, venait d'accoucher.
Oui.
Donc, Jen est arrivée tard sur le plateau. Elle était avec son staff, elle s'est fait équiper, elle est arrivée sur la scène. Les autres, ils sont arrivés à 10h du matin.
Elle n'a même pas répété.
Elle n'a pas répété, mais les autres sont arrivés super tôt. Et leur passage à la Starac 1, je ne sais plus, ils sont passés avant nous. Donc, ils sont passés aux alentours de 18h. Bah, quand tu viens de 10h du matin à 18h, bien sûr que ça te paraît le temps te paraît long.
Oui.
Elle est arrivée, elle s'est préparée, elle est montée sur scène. Et elle leur a parlé en coulisses, on les a vus, on était là.
Okay, donc,
il ne faut
donc
pas dire que...
C'est de la fake news.
C'est pas de la fake news. Je pense qu'ils en, ils en, ils en voulaient plus. Ils en voulaient plus, passer plus de temps, plus de temps. Mais elle était là.
Ouais.
En fait, j'aime pas.
Non, elle a fait le job en plus,
en
je trouve.
Plus, elle a été rigolo. Elle était touchante. C'est la première à pleurer. Tu vois, on était tous sur un décompte à se dire qui va être le premier à pleurer. C'est Jen la première. Enfin, moi, je l'ai trouvée touchante. Et à un moment donné, et je suis aussi bien placée pour le dire, même si j'ai pas la carrière de Jennifer, c'était il y a 20 ans, les gars. On se retrouve tel. Enfin, pardon, mais quand tu revois tes potes du lycée. Bah, tu les revois pas tous les jours non plus, t'es ému, tu partages des souvenirs et puis après tu rentres chez toi.
Bah oui, c'est ça.
Bah, c'est la même chose en fait.
Oui. Ouais.
Voilà. Team Jennifer, en cas où
tellement
pas compris.
Ravie.
Non, en fait, j'aime pas parce qu'il y a eu tellement d'articles à l'issue de ce truc.
Ouais.
Quand toi, t'es présent et que t'as vu.
Ah, ça doit être l'enfer, t'as envie de parler.
T'as envie de dire stop en fait, arrêtez de vous acharner sur elle. C'est tellement facile de s'acharner sur elle.
Elle s'en prend plein la gueule tout le temps.
Tout
le temps.
Alors que nous aussi, il y a eu des embrouilles de notre saison en coulisses.
Ah,
il n'y a pas eu d'articles. On peut les faire. Oh, bah nous, comme d'hab, c'est toujours les mêmes. C'est toujours avec Sofiane, Enrique, Sandy, moi.
Mais pour rien. Il n'y avait pas un truc entre Sofiane et Sandy?
Si, bien sûr.
Ah,
bien sûr. Ah non, c'était la saison des couples. Nous, on a eu plein.
Ah ouais?
Ouais, je crois. Je suis en train de déclarer des trucs.
Oh là 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 là.
Bah moi,
les gros titres demain.
Toi et Harlem et Sofiane et Sandy.
Francesca Enrique.
Ah mais oui, bien sûr.
Et moi, puis il y en avait un autre. Mais je sais plus qui c'est.
On arrive à avoir de l'intimité quand on est en couple dans le château?
Bah non, mais tu le fais, tu as ton intimité ailleurs. Bah déjà, t'as pas cette intimité-là, très clairement.
Ok.
Parce que, okay. Non, mais il n'y a pas eu de sexe, hein, si c'est ça la question sur
sur
ma saison.
Quand je disais intimité, c'était une façon élégante de demander si ça couchait. Quoi.
Non, pas. Bah, en tout cas, pas chez nous. Chez les autres, je sais pas, mais pas chez nous. Puis après, quand t'as pas de caméra, quand t'es sur les répètes ou des trucs comme ça, donc t'es tranquille. Le jeudi, vendredi, t'es tranquille.
Okay. Intéressant.
Bon, ça va.
Allez, Elisa, tu veux nous parler du château ou pas?
Oui, allez.
Allez, dis-nous tout d'Amérie Lélis.
Alors, moi, j'ai passé mon enfance dans le 77, à côté du château de la Starac. La première info, c'est qu'il n'est pas à Damary-les-Lys, tu peux en témoigner. Il est à Vauve. C'est une petite
ville. C'est plus chic de dire Damary-les-Lys.
Exactement. C'est une petite ville à côté d'Damary-les-Lys. Mais pour les gens du 77 de Seine-et-Marne, c'était un peu notre tour Eiffel quand même. Hein. C'était, voilà, il y avait le château de la Starac chez nous. C'était tellement important que le premier jour de la première émission, le premier prime, Damary-les-Lys était bloqué. Les gens ne pouvaient pas circuler parce que les gens cherchaient le château. Et puis après, pareil, on essayait. Alors moi, je suis passée quelques fois, évidemment, en voiture, on faisait des petits détours. Hein, et
est-ce que depuis le portail, t'as perçu le château?
Non, on voyait rien.
Ah ouais, non. Donc c'est vraiment
on voyait rien.
Parce qu'entre le portail et le château, il y a le carré prod.
Exactement.
Ah ouais.
On voyait absolument rien, mais on passait quand même. On rêvait de voir quelqu'un. Ça n'est jamais arrivé. Et puis, alors, Dan-Marie Lélis, c'était de 2001 à 2008. Ensuite, ils sont partis à Paris. Ouais, ça a cassé un peu le...
Nul, c'était nul.
Ouais. Le château était un monsieur qui s'appelait François Dussault. Et en fait, il y a une petite polémique, parce que je ne sais pas ce que vous avez fait dans ce château, mais...
Qu'est-ce qu'on n'a pas fait, surtout.
Voilà, c'est ça. Mais en fait, il était hyper dégradé. Et en gros, il réclamait 700 000 euros.
À Endemol ?
À Endemol, à la production. Alors, il a expliqué que le château aurait été saboté, que le parquet était ruiné, des moulures détruites et des cloisons abattues. Karima, mais est-ce que vous avez tu peux fait t'expliquer ?
Vous n'avez pas fait des batailles avec des trucs ou à vous lancer des trucs ?
Oh bah oui, ça tout le temps. La nourriture, c'était notre truc. Bah déjà, encore un truc qui ne se ferait plus à notre époque, ouais, les ouais batailles de nourriture, ouais. Déjà. Nous, on est revenus au château en 2015. On nous a rouvert les portes du château, c'était pour les 10 ans de la disparition de Grégory. Est-ce... Non, c'est pas ça, je suis totalement en train de me tromper. On est revenu en 2014, pour les 10 ans, pour nos 10 ans.
D'accord.
Pour nos 10 ans, on est revenu à Dan-Marie Lélis faire un concert pour l'association Grégory Le Marchal.
D'accord.
Et on nous a rouvert les portes du château, et effectivement, à l'intérieur... Alors chaud.
Ouais.
Ah ouais, c'était un peu saccagé. Après, nous on n'a rien fait, comme l'a si bien dit Elisa. L'émission a eu lieu jusqu'en 2008, nous ouais, on est en 2004. Donc il y a des gens qui ont tout cassé après nous.
Et là, alors, il est à l'abandon ?
Non, alors il a
été racheté.
Il a été racheté un peu avant le Covid. Ils ont voulu faire des travaux pour que le château soit un haut lieu de mariage.
Donc, je suis sûre que tu te marieras bah, là-bas.
Évidemment, le Covid a évidemment dû faire interrompre les travaux. Et là, ça reprend. Donc, peut-être que je vais me marier là-bas.
Ok, mais bah, je te le souhaite.
Je t'inviterai.
Donc, ça veut dire qu'il est dispo.
Bah ouais.
Pour on va regarder
les prix
une nouvelle
pour, les, pour une soirée du Nouvel
Alors,
An.
J'avais les prix.
Ah ouais,
ouais, moi, tu sais, quand je vais dans une investigation,
ah,
bien sûr. Endemol payait par mois 26 682 euros.
Ça va ?
Oh, ça va ?
Ouais. J'ai pas l'impression que ça soit... Après,
parce que c'est 4 mois par an ?
Bah ouais, c'est pas si cher.
Ça fait 100 000 euros.
Puis c'est un château, donc...
Vu... Oh, 100 000 euros, c'est une soirée de vente.
Ah, il est plus grand à la télé ?
Il est beaucoup plus grand à la télé.
Il y a des endroits qu'on voit pas
Bah, même nous, on n'y a pas accès aux endroits. Ouais. On voit pas parce qu'il y a les caméras qui sont cachées ouais un petit peu partout. Mais il est tout petit, en vrai, le château.
Ah ouais.
T'as un petit côté déceptif hein, quand t'arrives. Tu fais « Ah bon ?» C'est juste
ah
ça.
Ah ouais.
Ah ouais, c'est assez impressionnant. Mais bon, ça reste impressionnant, oui, ce château.
Allez, dans la plus pure tradition de Elle Débrief, je vous ai préparé un quiz.
Elle Débrief.
La première, elle est méga simple. Rapidité.
Attends. Comment on fait ? On lève la main ? On crie ?
Non, vous criez.
Okay.
Enfin, pas trop. Mais vous rapidité.
J'ai peur. Je la regarde.
Attention. Saison 2. Oh. Quelle chanteuse a eu un énorme crush pour Georges Alain ?
Maria Carré.
Oui ! Ah, elle a eu une demi-seconde d'avance. Bravo, Elisa. Maria Carré voulait repartir avec Georges Alain.
T'imagine.
Comme je la comprends. On n'a pas parlé encore du fait que Georges Alain a disparu de la circulation, mais moi, ça me
Il était même flouté
ouais
dans les images.
S'il l'a demandé, oui.
Ouais. Hyper triste, je ouais l'adore.
Bisous.
Deuxième question. Au manager de quelle star Alexia Laroche-Joubert a-t-elle dit « qu'il se tire, je n'en peux plus »
Alexia, elle a dit ça à quelqu'un ?
Et ouais ça a été filmé ?
Non, mais elle l'a
elle
raconté.
Elle l'a raconté ? Star américaine ?
Oui, forcément.
Ouais. C'est sûr que c'est une américaine.
Ah oui, je sais. Je crois qu'ils en ont parlé dans le prime, sur le Prime en plus.
Qu'il se tire. Elle m'étonne pas d'elle déjà de 1, je l'aime tellement.
Oh là là. Indice, un petit indice.
Ouais.
Rappeur.
Eminem ?
Non.
50 Cent ?
Non.
Booba ?
Bah non, pas
américain.
Ah oui, pardon. Bah, tu
ah,
sais,
il a dit
oui.
Mais oui,
bonne réponse.
C'est vrai qu'il est venu.
Elle a
C'était
dit, je
saison
cite...
Non, c'est... il chantait avec Cynthia.
Elle a dit, ah oui, je n'en pouvais plus. Le mec a mis 4 heures à descendre pour ses répétitions, alors que d'autres artistes attendaient, etc. Bref, l'enfer. Bien évidemment, quand je lui ai dit, tire-toi, il a fait ce qu'il fallait pour rester.
Ah, quelle femme.
Ouais. Prochaine question, nous sommes à égalité, un point partout.
Elle était dure celle-ci quand même.
Grave.
Attention, là on est dans une question dure. Le 12 janvier 2002, Jennifer remporte la première saison de la Star Academy.
Face à Mario.
Combien ? À combien ?
Ouais.
À 500 000 près.
Non.
Combien de Français regardent le Prime ce soir-là ?
Ah bah c'est le record. Ils sont à 13 millions et quelques, mais je sais plus.
Donnez-moi chacun votre estimation.
À 500 000 près, t'as dit ?
Ouais.
Bah, à 13 millions.
Moi j'en ai aucune idée, donc je vais copier. Allez, 14.
Alors c'est toi, Karima, qui est la plus proche, c'est 11,9 millions, c'était la quatrième meilleure audience de l'année.
C'est énorme. C'est énorme.
Ouais.
C'est comme et une finale devant.
Ouais.
Et nous on y était, oui. En pleurs, moi personnellement,
ah bah oui,
ces gens.
Prochaine question. Sur un prime de la Starac 5, Madonna interprète Hung Up et se frotte contre un candidat.
Jean-Luc.
Oui.
Bravo. Et Jean-Luc lève les mains parce ouais, qu'il n'a pas le droit de la toucher.
C'est ça. Il ne savait pas s'il pouvait la regarder dans les yeux ouais. ou pas.
Il a dit, c'est la rencontre qui m'a le plus marqué, c'est Madonna. Elle tu m'a fait du rentre dedans en plein mais direct et venait se frotter contre moi.
Elle a twerké.
Incroyable. Dernière question, Elisa, c'est le moment, c'est la remontada.
Stop, stop, stop.
En 2020, Georges Alain, toujours lui,
tout autour de lui,
sort de son silence et balance que l'émission était truquée. Oui. Nathalie André, qui a été directrice du château, lui répond sur Twitter. « Tu es en manque de notoriété, mon petit chat. Pourtant, avec ta voix, tu aurais dû gagner. En attendant, sans la Star Academy, tu serais encore chez toi et non à Canal+. Ce qui était truqué, c'est sûr, c'est que ne voulait pas chanter avec toi. De qui parle-t-elle ? Un artiste.
Français ?
Non.
Ouais.
Une immense star.
Avec qui il a finalement chanté ?
Je sais pas.
Est-ce qu'ils ont eu Ray Charles et tout, la saison 2 ?
Ouais.
C'est pas Ray Charles,
non, Ray Charles, il a chanté avec Emma, exactement. Un homme, il a eu un biopic au cinéma il y a pas très longtemps.
Elton John ?
Oui ! Bonne réponse. C'est méchant un peu d'avoir répondu, d'avoir dit ça.
Qui, Nat ?
Ouais,
mais ça m'étonne pas d'elle. Tu crois qu'elle va se laisser marcher dessus par
un gars
qui a quand même dit, enfin, je rappelle que la saison 2, c'est Nolwenn Houssin, la finale, le mec, il pense que lui, vraiment, avec sa voix...
Oh non, mais on touche pas à Jean-Jalin,
Moi, il va me taper dessus. Je ne le connais pas, on s'est jamais vu.
Ouais.
Ah non, on s'est jamais vu, mais il avait un côté Simpson pour moi.
Ah ouais, ouais. Moi, c'est vraiment énorme crush, quoi.
J'adorais sa personnalité, mais après, t'as Nolwenn Houssin, attends, arrête, et oh.
Houssin, je l'adore, mais...
Je te parle en voix.
Voilà.
Nous aussi, c'était notre répétiteur sur la Star à 4.
Ah ouais,
il venait, il mettait des seaux d'eau dans la gueule, il repartait.
On l'appelait pas le coach des élèves,
ouais,
genre.
Ouais, mais en fait, il venait, il mettait le boxon, il repartait. C'était sympa quand même.
Bravo Karima, tu as gagné le quiz. Désolée Elisa.
C'est pas grave, j'accepte.
Elle débrief. Vous qui nous écoutez chez vous, peut-être à la salle de sport, peut-être dans votre bain, c'est ce que je vous souhaite le plus. Vous le savez peut-être ou peut-être pas. Mais peut-être que vous l'aurez compris, Elisa, c'est la plus grande fan de Jennifer au monde. Avec Karima ?
Ah oui, je l'adore.
Et il y a 2 ans, on a réussi à lui dégoter une interview. Et je suis allée vivre ce moment avec elle toute la journée. Et c'était incroyable, raconte-nous.
Alors, déjà, il faut savoir que j'ai reçu l'invitation pour l'interview avant que je parte en vacances d'été. Donc j'ai eu tout un mois de vacances, un petit peu moins évidemment, pour me dire est-ce que ça va se faire, est-ce que ça va pas se faire, est-ce que je vais la rencontrer, parce que c'était à la période où elle sortait sa ligne de déco Ligati. Donc en plus c'est sur la déco, hein. Je suis journaliste beauté et forme, donc c'était pas du tout ma rubrique.
Mais mais on savait qu'il fallait lui faire ce cadeau.
Mais là j'adorais la déco, là vraiment, appelez-moi Valérie Damido, enfin vraiment. Et donc cette interview se fait, évidemment je propose à Elodie de m'accompagner psychologiquement surtout. Et elle sait ce qu'elle fait très bien, elle m'a filmé toute la journée.
C'est vrai.
Et puis je me dis, bon, je suis
elle
fan.
Elle a vécu fan d'eux en fait.
Exactement.
C'est ça, c'est ça.
Exactement.
Je l'avais jamais, bon, j'ai été à tous ses concerts évidemment, je l'avais déjà vue quelques fois, mais j'avais bégayé devant elle. Donc vraiment, on s'était pas vraiment grand chose, enfin on s'était pas échangé quoi, on n'avait rien échangé du tout. Donc je me dis, bon, là, il faut qu'elle comprenne que je suis fan sans faire la fan. Donc je me dis, il faut taper sur une question où elle se dit, ah, c'est quelqu'un. Pour chercher de l'inspiration, je regarde des vidéos de son concert. Elle avait fait quelques mois auparavant son concert anniversaire, meilleur concert de ma vie. Et là, sur la scène, je vois la collection Ligati, qui n'était pas sortie, et qu'elle avait un peu teasé. Donc je me dis, ok, c'est bon, j'ai ma première question. Comme ça, elle sait. Elle sait que, un,
j'étais là,
je suis sa fan. Et deux, que je suis une petite journaliste de talent. Voilà, j'ai l'œil. Et donc, on arrive, ça se passe très bien. Bonjour, bonjour. Moi, je suis en fébrilité. J'ai envie de mourir et en même temps, j'ai envie que cette scène se répète toute ma vie.
Et puis, tu essaies de rester digne, forcément.
Exactement, exactement. Puis, je suis très, très fière et tout, donc je ne veux pas montrer, mais je suis en tachycardie. Elle s'assoit à côté de moi, je me souviens.
T'es masquée.
Je suis masquée, on est en plein Covid. Et je me souviens, elle s'assoit à côté de moi et je ne sais pas pourquoi je lui dis ça. Je lui dis, ah ben on est proches quand même. Je me dis, mais tais-toi Elisa, tais-toi. Mais j'arrive pas en fait. Et je lui sors ma première. Et donc, je lui sors ma première question et on écoute.
Ouais, c'est vrai, il y avait quelques objets qu'on pouvait retrouver sur la scène musicale sur le concert anniversaire.
C'est ça,
là.
Oui. Bon, ben voilà. En pleurs, en larmes, j'étais là.
Merci beaucoup. C'était un des
plus beau
moment de tout ma gueule.
La suite de l'interview se passe plutôt bien. À un moment donné, je me souviens, je la vous voyais, j'avais peur de la tutoyer. Et en même temps, j'avais envie de la tutoyer. Pour moi, c'est ma sœur. Hein, donc... Et à un moment donné, pareil, elle m'a tutoyée, elle s'est reprise, puis ensuite, elle a continué à me tutoyer. À la fin, je sais qu'elle fait de la peinture. À la fin, limite, je la harcèle pour savoir si un jour, elle va sortir des tableaux. Je ne sais pas pourquoi. Je me souviens...
Tu seras la première à l'acheter.
Et c'est ce que je lui dis dans l'interview. Ah ben voilà. Et elle me dit, non, pour l'instant, c'est pour ma famille. Je l'ai envie de dire, c'est pareil.
Je suis de ta famille.
C'est pareil. Et puis, l'interview se passe très bien. Ça se finit. Elle me dit au revoir. Je me souviens, Élodie, tu pars en premier. Je suis derrière et j'entends une personne de son équipe lui dire, alors, ça s'est bien passé. Et là, Jennifer dit, ah oui, ça fait plaisir de voir des journalistes comme ça, de bonne humeur. Je vais dire, bah oui, de bonne humeur. Enfin, là, je viens de réaliser mon rêve, donc je ne vais pas venir en chialant. Hein.
C'était une belle journée.
C'était une très belle journée. Elle avait regardé ma story ensuite. Elle avait reposté l'article dans sa story. Oh, j'en ai parlé quoi.
Fierté, quoi.
Qu'à 5 ans.
on a fait une belle photo. Enfin, je vous ai fait une belle photo.
Ouais. D'ailleurs, je te remercie publiquement.
Avec plaisir.
Parce que moi, je partais en fait. Évidemment que je voulais une photo avec elle, mais je partais en mode non, je ne vais pas l'harceler. Et Élodie m'a sauvée, m'a dit peut-être qu'on peut faire une petite photo. Et elle a dit oui, mais bien sûr, pas de souci. Et donc j'ai ma photo. C'est d'ailleurs la photo la plus
likée.
Elle
est affichée dans la rédaction de oui. Elle, en grand d'ailleurs.
Voilà. C'est ma photo préférée.
Ah, ça fait plaisir.
C'est beau.
C'est émouvant. C'était hyper émouvant d'accompagner quelqu'un réaliser son rêve. Quoi, je comprends. Tu vois, moi, ouais. Si ça avait été les Spice Girls, j'aurais aimé qu'on suive tout ça avec moi. Ouais.
Ouais. Ouais. Moi, une fois, j'ai parlé à Emma, elle m'a mis en vent et ça a été le plus beau jour de ma vie.
C'était sur le tapis rouge des Brit Awards
avec
Jérémy. Ouais.
Parer,
ouais.
Pardon. Et elle nous a mis en vent et c'était quand même le plus beau jour de ma vie. Vraiment. Parce qu'elle m'a mis en vent avec un énorme sourire. Je lui ai dit, ouais, c'est pas grave.
Moi, j'ai passé une journée avec Victoria Beckham, mais j'ai signé un non-disclosure agreement, là, un contrat, donc je peux rien dire. Je le dirai un jour. Voilà. On finit par le traditionnel courrier des lectrices. Aujourd'hui, nous avons une question de Louis B. qui veut savoir si Valérie Damido a travaillé pour la Star Academy. Cher Louis, bien vu ! Valérie Damido, avant de devenir la reine incontestée du marouflage, a travaillé dans le célèbre château de Damary Lélis. L'animatrice, qui était alors inconnue du grand public, c'était la nounou des académiciens sur la première saison. Elle devait, je cite, les dorloter. Elle les accompagnait quand il y avait des sorties, elle les rassurait. Et après cette première expérience de télé-réalité, elle file sur M6 où elle devient directrice du casting de Love Story 2.
Et
donc
bah...
potentiellement... C'est elle qui a validé la candidature de Leslie Mess, une célèbre lofteuse qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de
Affida Turner.
Eh oui. C'est la fin de cet épisode de Elle Débrief consacré à la Starac et je vous remercie de l'avoir écouté. On me dit qu'on vous accompagne régulièrement lors de vos trajets dans les transports ou pendant votre séance de sport. Alors moi j'écoute des faits divers quand je fais du sport, mais ça me fait plaisir de savoir que vous transpirez en nous écoutant. Si vous avez passé un bon moment, faites-le savoir en vous abonnant au podcast sur votre application préférée, en en parlant à vos amis, en le partageant sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous taguer, à taguer Karima ou les candidats de la saison 1 surtout.
Bisous Patrice.
Ouais. On se donne rendez-vous dans une semaine pour un épisode très spécial qu'on va aller tourner loin d'ici. Salut Karima, salut Elisa.
Salut,
merci.
Elle Débrief. Retrouvez tous les épisodes de Elle Débrief en ligne sur les plateformes.
Élodie Petit et Elisa Casson de Elle
décryptent l'actualité la plus futile avec tout le sérieux qu'elle mérite.
Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter, le commenter, le partager.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.